Après qu'on eut essayé inutilement, à ce que j'ai entendu dire, des médicaments abortifs, je naquis le 24 septembre 1501, vers la fin de la première heure de la nuit, un peu avant la demi, mais avant les deux tiers de l'heure. Les principales situations de la figure étaient telles que je les ai décrites dans le 8e horoscope, à la suite de mon commentaire du quadripartite de Ptolémée. J'ai donc considéré que les deux luminaires tombaient sous les angles, et aussi qu'aucun d'eux ne regardait l'ascendant, car ils étaient dans les 6e et 12e maisons, et pouvaient, sous cette condition, être aussi dans la 8e. De celle-ci, en effet, parce qu'elle descend et n'est pas un angle, on peut dire qu'elle tombe de l'angle. Et bien que les maléfiques ne fussent pas dans les angles, Mars, cependant, condamnait ces deux luminaires à cause de l'opposition des lieux et de la quadrature avec la Lune. Aussi, pouvais-je être monstrueux. Bien plus, comme le lieu de la précédente conjonction était le 29e de la Vierge, auquel préside Mercure, qu'il n'est pas le même que le lieu de la Lune, ni que celui de l'ascendant, et qu'il ne regarde pas l'avant-dernière région de la Vierge, j'aurais dû être un monstre. En outre, il pouvait se faire que je ne sortisse qu'en morceaux du sein maternel, ce qui faillit arriver. Je naquis donc, ou mieux, je fus tiré au jour comme mort, avec des cheveux noirs et frisés, et ranimé par un bain de vin chaud, qui aurait pu être funeste à un autre.
Jérôme Cardan par Michel Cazenave.
Étienne Wolff, lorsqu'on lit la vie, plus exactement l'autobiographie que Cardan a écrite de lui-même, on a l'impression, peut-être est-ce une réaction d'homme du XXe siècle simplement, mais on a l'impression d'être devant ce que j'appellerais en fin de compte un sacré bonhomme. Puisque voilà quelqu'un qui est médecin, qui est mathématicien, qui est astrologue, qui s'intéresse aux poisons, qui écrit des livres à la gloire de Saint-Martin ou de la Vierge Marie, qui a recours à la divination. Bref, on a l'impression de quelqu'un d'absolument protéiforme et qui, je dirais, sort tout à fait du commun.
Oui, c'est tout à fait juste et je dirais que c'est un des aspects peut-être les plus séduisants de la personnalité de Cardan, c'est qu'il touche un petit peu à tous les domaines. Donc c'est en ça que son intérêt dépasse celui que peuvent avoir d'autres personnes du XVIe siècle qui seraient simplement des scientifiques ou des inventeurs.
Alors justement, lorsqu'on essaie de suivre la carrière de Cardan, on a l'impression que d'une certaine façon, il est quand même très tributaire de l'histoire, même de, je ne dirais pas de l'Italie, puisque l'Italie en tant que telle n'existe pas en fait, mais disons de la péninsule italienne.
Oui, il est tout à fait tributaire de l'histoire de l'Italie, puisque il a vu la guerre, donc la fin des guerres d'Italie, et c'est directement intervenu dans sa vie professionnelle, puisque très souvent, il doit renoncer à ses cours à l'université, par exemple, parce que tout simplement, on ne peut pas le payer, parce que les universités, enfin les municipalités sont ruinées à cause de la guerre. La situation aussi de l'Italie pouvait avoir des avantages, puisque donc en raison de la division politique, on pouvait passer dans certaines situations d'un état dans un autre. Par exemple, il finit la fin de sa vie dans les états pontificaux, ou bien quand il y a un incident à Venise parce qu'il a blessé un sénateur, il s'enfuit précipitamment et une fois qu'il est dans un autre état, il n'est plus soumis à la police vénitienne de triste mémoire.
Que je suis naturellement irascible, naïf et porté à l'amour. De là, comme deux principes, découlent la violence, l'opiniâtreté dans la discussion, la rudesse, l'imprudence, la susceptibilité, le goût de la vengeance, même quand elle est au-dessus de mes forces. Bien plus, ma volonté y est incline au point que j'approuve ce mot, que beaucoup condamnent, du moins en parole. La vengeance est un bien plus doux que la vie même. En général, je n'ai pas voulu faire mentir le dicton commun que notre nature penche vers le mal. Pourtant, je suis sincère, reconnaissant des bienfaits, épris de justice, attaché au mien et dédaigneux de l'argent. J'aspire à la gloire après ma mort. Je méprise la médiocrité et encore plus la petitesse. Mais sachant combien les moindres circonstances sont importantes dans les débuts, j'ai l'habitude de ne laisser passer aucune occasion. J'ai exercé mon visage à toujours exprimer le contraire de mon sentiment. Aussi puis-je simuler. Mais je ne sais dissimuler. C'est pourtant chose facile, comparativement à l'art de ne rien espérer, que j'ai acquis au prix de 15 ans des plus grands efforts. Ainsi, je vais quelquefois déguenillée, à d'autres moments richement vêtu, silencieux ou bavard, joyeux ou triste. Et par là, toutes mes attitudes sont doublées. Durant ma jeunesse, je soignais peu et rarement ma mine, dans mon désir de m'attacher à des objets plus importants. Ma démarche est inégale, tour à tour lente et rapide. Chez moi, j'ai les jambes nues jusqu'aux pieds. Guère pieux, sans retenue dans mon langage, surtout quand je suis en colère. Et cela au point de recueillir honte et ennui. Malgré mon repentir, j'ai durement payé, je l'ai dit, toutes mes fautes. Et ainsi expié les turpitudes de la vie sardanapalesque que j'ai menée en l'année de mon rectorat à Pavie. C'est une gloire dans l'infamie et une vertu dans le crime que d'avoir sagement et patiemment supporté le châtiment et corrigé le mal.
Au départ, Cardan, normalement, voulait se dédier à la médecine. Il a surtout fait des études de médecine, que ce soit à l'université de Pavie, puis à l'université de Padoue, tout en faisant en même temps des mathématiques, ce qui fait qu'il a sa nom aussi dans les mathématiques. Et on se rend compte qu'il a quand même une position qui sort assez de l'ordinaire par rapport à son époque, puisque la grande autorité, en fin de compte, est celle de Galien, à laquelle Cardan n'a pas l'air de beaucoup croire. Et en même temps, ce qu'il met en avant n'est pas réellement un retour à Hippocrate. C'est quand même une attitude que l'on... Je ne sais pas si on peut la dire moderne, mais on peut la dire au moins prémoderne.
Oui, absolument. Il critique beaucoup Galien, alors que le galénisme est dominant. Il s'appuie parfois sur Hippocrate, mais surtout, il a certaines idées personnelles qui ne sont pas bien théorisées, mais qui ressortent tout de même de ce qu'il dit. C'est d'abord l'importance du diagnostic... Ensuite, la réflexion avant l'administration d'un traitement. Il dit par exemple qu'il est absurde d'appliquer un traitement si on voit que ça ne sert à rien. Mais surtout le diagnostic, et c'est un domaine dans lequel il était, paraît-il, tout à fait extraordinaire. Et ses compétences étaient reconnues. Il s'en vante beaucoup d'ailleurs dans son autobiographie, puisque la modestie n'est pas absolument une de ses qualités. Et il avait lancé une sorte de défis qui consistaient à faire l'examen de tous les gens des mourants, et il proposait qu'on les autopsie après leur mort pour voir s'ils étaient trompés dans le diagnostic. Comme ce pari était fondé sur une assez forte somme d'argent, rapidement on a arrêté de le mettre à ce défi.
Gérard Nicolescu, alors qu'il est professeur à l'université de Pavie, où il exerce la médecine, Jérôme Cardan écrit un grand traité d'algèbre où il introduit la notion de nombre complexe. Or, un nombre complexe, on le sait, formé pour partie d'un nombre réel, pour l'autre partie d'un nombre imaginaire. Alors, à quoi correspond exactement cette invention du nombre imaginaire, la racine carrée d'un nombre négatif, dont on peut dire que, normalement, c'est quelque chose qui pourrait heurter complètement la raison, et en même temps, on a l'impression que ce nombre imaginaire, vous-même, en tant que physicien théoricien, aujourd'hui, en physique quantique, vous ne pourriez même pas exercer votre discipline si ce nombre imaginaire n'avait pas été inventé.
C'est peut-être une des histoires les plus fabuleuses de l'histoire des sciences. Justement, on ne peut pas concevoir actuellement la physique moderne et les mathématiques sans les nombres imaginaires et, par leur extension, les nombres complexes. Tous les phénomènes physiques ne peuvent être étudiés qu'à partir des fonctions des variables complexes. Eh bien, cela a mis 3 siècles pour s'établir vraiment et considérer qu'il s'agit d'une notion solide, mathématique, fondée, rigoureuse. Au début, c'était considéré comme quelque chose de fou, quelque chose d'inadmissible, d'absurde. D'ailleurs, les premiers noms des nombres imaginaires, c'était les nombres absurdes. Or, quelle était l'absurdité? Eh bien, l'absurdité, c'est très simple à expliquer. Quand vous multipliez un nombre positif par un nombre positif, vous obtenez un nombre positif. Quand vous multipliez un nombre négatif par un nombre négatif, vous obtenez aussi un nombre positif. Donc, extraire la racine carrée d'un nombre négatif, c'est une absurdité. Eh bien, cette absurdité, cet homme, Cardan, le plus grand mathématicien de son siècle, a osé les faire, et pendant des siècles, 3 siècles quand même, ça a été considéré comme une sorte de bizarrerie qui a été clarifiée par des grands noms comme Cauchy, comme Gauss, comme Argand. C'est Argand qui a donné l'interprétation la plus simple, qui est celle des nombres réels. L'opérateur I vient de l'imaginaire, c'est l'opérateur de perpendicularité.
Giovanna Cifoletti.
Il y a un autre aspect dans l'ars magna qui a quand même énormément compté dans le développement même de l'algèbre ultérieure, qui je pense introduit vraiment tout un chapitre nouveau de l'algèbre,
oui.
Et qui est que pour la première fois, on voit Cardan introduire la notion de nombre négatif.
Oui.
Or c'est quelque chose qui était à la limite, je dirais, pour un certain nombre d'esprits, peut-être pas des mathématiciens, mais pour un certain nombre d'esprits assez scandaleux.
Oui. Oui, en effet, c'est quelque chose qui paraît dans le texte de Cardan. Nous devons d'abord le comprendre comme une exigence de systématisation, au sens que quand il s'agit d'écrire un texte, disons, organique, il faut justement trouver une manière de traiter uniformément les problèmes. Et donc, Cardan a été pour la première fois, pour ainsi dire, obligé à tenir compte de ce genre de nombres. Mais il continue à écarter les solutions négatives des équations et donc à privilégier les positives. Donc, dans ce sens-là, il y a une nouveauté, mais ce n'est pas aussi radical que nous aurions tendance à penser.
Revenir aux nombres imaginaires, Bazarab Nicolescu, vous nous avez montré en quoi effectivement ils étaient absolument essentiels pour la mathématique et pour la physique moderne, mais j'aimerais qu'on en revienne à cet aspect très très simple en fin de compte, qui est comment un nombre aussi absurde en quelque sorte, comme vous l'avez vous-même défini au départ, comment est-ce que on peut arriver à en avoir l'idée à un moment où déjà c'est une grande innovation qu'on introduit les nombres négatifs, nous l'avons vu, c'est Jérôme Cardan d'ailleurs qui l'a fait, mais donc comment peut-on avoir l'idée d'un nombre aussi impossible en fin de compte que le nombre imaginaire?
Là, je crois que c'est le problème le plus intéressant des Cardan et de l'histoire des nombres imaginaires. Je crois que la source de l'invention des nombres imaginaires n'est pas la pensée logique. Cela est évident quand on connaît la vie de Cardan, quand on connaît les écrits de Cardan, quand on connaît toute sa démarche. Sa démarche procède de l'imaginaire. C'est-à-dire, pour lui, l'imaginaire, c'est aussi réel que la réalité de tous les jours, que la réalité donnée par les organes des sens. C'est comme une réalité autre, comme quelque chose qui vient d'ailleurs, il faut le dire, d'ailleurs, qui imprègne, qui traverse cet homme qui s'appelle Cardan et s'impose à lui comme une évidence. Il dit, je dois faire cela. Ce n'est pas par déduction logique. Et après, il y a effectivement des déductions logiques. Mais la déduction logique vient après. Et donc, pourquoi il a fait? Pourquoi il a fait? Et certainement aussi parce que c'était un grand mathématicien. Donc, il avait toute la base, toutes les connaissances. Mais aussi parce que c'était un homme, on peut dire, possédé par l'imaginaire.
A donné sans mesure dès mon adolescence au jeu d'échecs. Par lui, j'ai connu le duc Francesco Sforza et me suis acquis l'amitié de beaucoup de nobles. Mais en m'y étant occupé assidûment de longues années, presque 40 ans, je ne saurais dire combien j'y ai souffert de pertes dans mes biens, sans profit d'aucune sorte. Or, l'idée me furent encore plus funeste, car je les enseignais à mes fils et ouvris souvent ma maison aux joueurs. Il ne me reste qu'une mince excuse de cette conduite, la pauvreté de ma naissance, et le fait que je ne manquais pas d'une certaine adresse. Le jeu est une habitude commune ou mortelle, mais les uns ne désirent pas que ce soit dit, les autres ne le souffrent même pas. En sont-ils meilleurs ou plus sages? Si quelqu'un s'adressant au roi leur disait « Il n'est personne de vous qui ne se soit nourri de poux, de mouches, de punaises, de vermisseaux, de puces et des excréments encore plus dégoûtants de ses serviteurs, comment recevrait-il ces paroles, bien qu'elles soient très vraies? Est-ce autre chose que l'ignorance de notre condition de refuser de savoir ce que nous savons et de vouloir contraindre la réalité? Ainsi de nos péchés et du reste. Tout cela est repoussant, vain, confus, changeant et caduc, comme des fruits gâtés sur un arbre. Je n'ai certes rien apporté de nouveau, mais j'ai mis la vérité à nu.
On a l'impression que, avant d'arriver à ce moment où il est enfin reconnu, aux environs de la quarantaine, il a eu quand même une espèce de, je dirais, de drôle de vie. Dans la mesure où il parle de sa passion du jeu, que ce soit les échecs, que ce soit les dés, en disant, bon, ça m'a beaucoup servi, par exemple, c'est comme ça que j'ai connu le duc Sforza, mais en même temps, j'ai dépensé des fortunes entières. Et on le voit se marier dans des conditions un petit peu étranges, telles qu'il le raconte, avec une femme dont il dit, il a quand même 31 ans quand il se marie, il dit, avec elle, enfin, je suis guéri de mon impuissance, puisque jusqu'ici, j'ai pu aller voir toutes les courtisane que je voulais, je n'arrivais à rien.
Oui, oui, on a l'impression que ces premières années sont un petit peu consacrées à des errances. Il le dit qu'il n'a rien fait sérieusement, qu'il s'est amusé, que quand même au début, quand il faisait ses études à Pavie, qu'il allait se promener dans les bois, qu'il se promenait toute la nuit, ou qu'il jouait, qu'il s'amusait, qu'il faisait de la musique, qu'il allait nager. Mais en fait, on n'a pas l'impression qu'il travaille énormément. Alors peut-être il est trop préoccupé sans qu'il nous dise exactement par ses problèmes personnels pour être capable de faire autre chose. Et son mariage, dont il dit pourtant beaucoup de mal, semble tout de même, en plus de son impuissance, avoir un petit peu dénoué certains de ses problèmes personnels.
Je dirais que ça semble avoir dénoué certaines choses, puisque lorsqu'il dit « avant j'étais impuissant, là, oui, j'ai fait agréer mon impuissance oui. », et si je me rappelle bien, il arrive à dire « et du coup j'en arrive à tellement forniquer avec ma femme que je mettais presque ma vie en danger ».
Oui, absolument, c'est assez drôle. Oui. Mais d'autre part, ensuite, il dit « oui, c'est ce mariage qui a causé tous mes malheurs ». Alors, disons que là, il extrapole un peu, les malheurs ne lui viennent pas vraiment de son mariage, parce qu'il n'y a absolument rien à reprocher à sa femme. Enfin, il ne le dit pas, mais plutôt des enfants qu'il a eu d'elle, hein, ce qui est tout de même différent.
Thank you.
Jacques Lebrun.
Lorsqu'on examine de près l'œuvre de Jérôme Cardan, on s'aperçoit qu'à côté de ses travaux très savants pour son temps en mathématiques, particulièrement en algèbre, à côté de ses travaux en médecine, il y a, et qu'il range lui-même d'ailleurs dans la liste qu'il fait de ses ouvrages, il y a dans la section divination un livre qui s'appelle « Le commentaire sur les songes de Synésios » et dont il signale d'ailleurs que c'est en 4 volumes. Donc un intérêt évident de Cardan pour les songes, qui se redouble, si l'on peut dire, à la lecture de l'autobiographie, dans laquelle régulièrement il raconte qu'il a fait un rêve de telle chose, et qu'il a pris telle ou telle décision d'après ce rêve. Donc on a l'impression qu'il y a chez lui quelque chose quand même de très particulièrement prononcé dans ce goût pour les rêves, et je dirais en même temps dans la volonté de comprendre ce que les rêves lui disent, car sans arrêt dans l'autobiographie, il revient dessus en disant « les rêves sont là » pour m'indiquer, en quelque sorte, la route qui est la mienne.
C'est tout à fait juste. Cardan n'a pas cessé de s'intéresser à ses rêves. Très jeune, il a noté ses rêves, il les a classés, il les a marqués sur des listes chronologiques. Et un beau jour, en 1562, il a décidé d'écrire un traité des songes, des Insomniis, qui se présentait en apparence comme un commentaire du vieux traité antique de Synésius, qui en réalité était tout autre chose. Synésius était un prétexte pour écrire une œuvre entièrement personnelle. Et Cardan ne cessera pas, après 1562, à continuer d'écrire ses rêves, puisque l'autobiographie qui date des dernières années, 1575-76, contient encore des songes, et des songes postérieurs à 1562. Donc on a l'impression que les songes, écrire ses songes, les noter, les interpréter, a été une activité qui a couru tout au long de la vie de Cardan. Et je crois qu'au centre, nous avons cette date de 1562, rédaction de ce gros volume, en effet, qui est en 4 livres, de l'interprétation des songes. 1562, nous verrons que la date n'est certainement pas choisie au hasard. C'est une date centrale dans la vie de Cardan. Et aussi bien pour son interprétation des songes et le sens qu'il faut que nous donnions maintenant à cette interprétation, que pour la vie personnelle de Cardan, 1560, je crois, a été la date centrale.
L'impression, par rapport au, je dirais, au succès qu'il accumule, en gros, pendant une vingtaine d'années, de 40 à 60 ans, en gros, qu'il va y avoir un tournant dans sa vie qui est l'arrestation puis l'exécution de son fils. Et qu'à partir de ce moment-là, je dirais psychologiquement, sa vie bascule.
Oui, c'est vrai, parce que Cardan a donc eu deux fils et une fille, et son fils aîné était celui qu'il préférait. Ce fils aîné ressemblait, selon Cardan, à son propre père, à lui, Cardan. En tout cas, il le préférait de beaucoup. Et ce fils aîné s'est marié très rapidement, contre l'avis de son père, avec une jeune fille pauvre, c'est-à-dire sans dot, dit Cardan, qui est aussi près des réalités matérielles. Le mariage était accompagné, comme toujours chez Cardan, d'une série de prodiges ou de signes malheureux. Et ce fils aîné était mal marié, c'est-à-dire que sa femme le trompait. Et un jour, il a assassiné sa femme, purement empoisonné sa femme, purement et simplement. Et il a été arrêté, il a avoué. En plus, il a été maladroit, c'est-à-dire qu'il a promis au juge qu'on corrompait facilement une somme d'argent que son père, Cardan, n'avait pas. Et donc, les juges, qui se sont estimés floués, ne sont pas intervenus pour sauver ce fils. Et il a été exécuté.
Et c'est juste après la condamnation et la mort de ce fils, donc dans les mois qui suivent, que Cardan reprend tous les songes qu'il avait notés depuis sa jeunesse, qu'il en fait une synthèse, une interprétation, et qu'il publie en 1562 cette interprétation. Et je crois que rétrospectivement, l'événement tragique de 1560 projette sur tout ce travail onirique et également de ce travail sur les songes de Cardan une lumière très crue, une lumière tragique qui donne peut-être une des clés de cette passion de Cardan pour l'interprétation des songes. Et qui ancre, je crois, et il faut bien s'en rendre compte dès le départ, ancre la réflexion de Cardan sur deux questions tout à fait fondamentales et centrales chez lui, mais qui apparaissent ici très nettement dans l'interprétation des songes, la question de la filiation et la question de la mort. La question de la filiation de Cardan par rapport à son père, de Cardan par rapport à son fils, ses fils, son petit-fils, et également la question de la mort qui hante Cardan depuis sa jeunesse.
Je dois rapporter ici un songe fâcheux, mais tout à fait en rapport avec mon propos. Voilà qu'une nuit, je me vois dans un jardin délicieux, très beau, paré de fleurs, plein de fruits de toutes sortes. Une brise suave soufflait. À l'entrée du jardin, la porte s'ouvrait toute grande, de même qu'une autre en face. À ce moment, j'aperçois une jeune fille vêtue de blanc. Je la rejoins, la serre dans mes bras, l'embrasse passionnément. Dès le premier baiser, le jardinier ferme la porte. Je me mets à lui adresser d'instantes prières de laisser ouvert, sans du tout pouvoir l'obtenir. Triste, mais enlaçant toujours la jeune fille, je reste hors du jardin. Quelque temps après, une maison brûla. Pendant la nuit, nous fûmes réveillés par l'incendie. J'appris à qui appartenait la maison en feu. C'était celle d'Altobello Bandarini, chef de la milice auxiliaire vénitienne dans le territoire de Padoue. Je ne fis rien, le connaissant à peine de vue. Mais par hasard, il loua la maison contiguë à la mienne. Cela me fut désagréable, car je ne tenais pas à avoir de pareils voisins. Mais que pouvais-je faire? Cependant, peu de jours après, je vois de la rue une jeune fille dont le visage et les vêtements étaient parfaitement semblables à ceux de mon rêve. Mais me disais-je, qu'ai-je à faire avec cette jeune fille? Pauvre comme je suis, si je veux épouser une femme qui n'a rien et qui est accablée d'une foule de frères et de sœurs, j'y succomberai, puisque même seul, je peux à peine subvenir à mes dépenses. Si j'essaie de l'enlever ou d'abuser d'elle secrètement, il ne manquera pas d'espions pour le rapporter au père qui réside en personne dans notre village. Un capitaine ne tolérera pas cette injure. Dans un cas comme dans l'autre, que me restera-t-il à faire? Oh, malheureux! Même si tout réussit, il me faut fuir. Roulant ses pensées et d'autres semblables, il me vint à l'esprit qu'il valait mieux mourir que de mener une vie pareille. De ce jour, je commençais non pas à aimer, mais à brûler. Je compris dans la mesure, du moins où je parvenais à tirer une interprétation de mon rêve, que j'étais désormais libéré de l'impuissance qui m'avait jusqu'ici toujours marqué. Je l'épousai consentante. Ses parents m'avaient poussé à cette union et m'offraient leur aide s'il en était besoin. Le père, en effet, pouvait beaucoup. Mais la signification du songe ne s'épuisa pas avec la jeune fille. Elle montra sa force dans mes enfants.
Dans
l'œuvre de Cardan, il y a aussi un livre qui peut retenir tout à fait l'attention, qui est le De Subtilitate, au sujet de la subtilité. La subtilité étant bien entendu la subtilité de l'esprit, à pénétrer les choses, dans laquelle, pour un esprit du XXe siècle, le livre peut paraître assez étonnant, car d'une part, on y trouve de longs développements de mécanique rationnelle, par exemple, et puis, par ailleurs, des développements tout aussi longs sur les puissances inférieures, pour ne pas dire infernales, sur les démons, d'ailleurs aussi bien au sens du démon de Socrate, la voix intérieure, que les démons au sens traditionnellement chrétien. Alors évidemment, on peut se demander comment, à l'intérieur d'une même œuvre, on peut passer d'une puissance la plus rationnelle qui soit à une réflexion totalement irrationnelle et, je dirais, passer comme naturellement d'un plan à l'autre.
Au XVIe siècle, c'est assez courant, on pourrait dire la même chose pour l'astrologie. Du naturel, on passe très vite au surnaturel. Les deux domaines ne sont pas absolument séparés. C'est en ça qu'on peut dire, par exemple, qu'il est moderne dans la mesure où il croit à la promotion de l'individu, mais en fait, il doute encore beaucoup de la liberté de l'individu, puisqu'il le soumet à un certain nombre de règles ou de lois qui ne dépendent pas de lui et qui peuvent être l'astrologie, qui peuvent être l'intervention de puissances supérieures dont on ne comprend pas toujours exactement ce qu'elles sont.
C'était un petit peu à ça aussi justement que je voulais en venir, à savoir cet autre aspect de Cardan qui est ses occupations astrologiques, parce qu'apparemment il s'en est quand même pas mal occupé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a écrit un commentaire à l'astrologie judiciaire de Ptolémée, dans lequel il donne des horoscopes, bon, les horoscopes de sa famille, de lui-même, de ses fils, ça va très bien. Et puis on en arrive à tomber par exemple sur l'horoscope du Christ. Je dirais là quand même, il fallait être audacieux pour faire ça.
Oui, il fallait être audacieux. On a quelques précédents, mais de gens qui avaient été condamnés, voire condamnés de manière capitale. Oui, il faut être audacieux, et on se demande dans un cas pareil si Cardan s'est véritablement rendu compte de ses audaces et s'il n'a pas un petit peu accumulé les imprudences donc qui amèneront l'arrestation par l'Inquisition.
Bien entendu, Cardan non seulement tire l'horoscope du Christ ou tire l'horoscope de Édouard II d'Angleterre, par exemple, lorsqu'il fait un voyage en Grande-Bretagne, mais bien entendu, il donne les horoscopes de tous les membres de sa famille et en particulier du sien. Alors, il est assez intéressant de regarder cet horoscope en notant d'une part que Cardan est natif du signe de la Vierge, ce qui indique déjà beaucoup des caractéristiques qui sont indiquées quant au personnage. Et si on se replace, bien entendu, dans la mentalité d'un homme du XVIe siècle qui croyait à la véracité de ses horoscopes, mais on voit aussi, et Cardan d'ailleurs s'en explique dans plusieurs parties de ses œuvres, que l'ensemble de la figure que forme cet horoscope est dominé par Vénus, d'une part, et que d'autre part, on trouve Jupiter dans le signe ascendant, le signe ascendant étant bien entendu le signe calculé à partir de l'heure de la naissance, et non pas calculé à partir du jour, qui est le signe solaire, qui est justement la Vierge, dans son cas. Or, Cardan explique justement à partir de cet horoscope que Vénus dominant sa figure est dans un aspect maléfique, avec la puissance d'astre maléfique, comme il le dit. Du coup, effectivement, il doit avoir des problèmes dans sa vie amoureuse, et en particulier des problèmes dans sa vie sexuelle, surtout on sait que c'est totalement avéré dans sa vie telle qu'elle a été menée jusqu'au jour de son mariage. Et d'autre part, son Jupiter en ascendant doit l'incliner à un tempérament qui hésite entre ce que, selon les anciennes catégories de l'Antiquité, on doit classer sous, d'une part, le signe de la froideur, et d'autre part, celui de l'exaltation d'esprit. Ce qui lui permet d'avoir ce qu'il appelle des réflexions, les réflexions dans un sens très précis, c'est-à-dire des pouvoirs divinatoires. Les pouvoirs divinatoires dont on sait qu'il ne se privera pas de les exercer durant toute sa vie, aussi bien à propos de cette astrologie en tant que telle, que aussi bien à travers ses songes ou les miracles, les visions qui lui adviennent. Et d'une façon générale, Cardan interprète sa propre existence à la lumière de son horoscope comme une sorte de surprise, en quelque sorte, surprise de quelqu'un qui est aussi bas qu'il se représente lui-même, aussi exposé au mépris de la fortune, et en même temps, quelqu'un qui doit être tellement exalté dans la puissance de son œuvre et qui, en fin de compte, le font entrer dans ce que, en astrologie, tout aussi traditionnellement aussi, on appelle les maisons royales. Giovanna Cifoletti, du point de vue des mathématiques, le grand ouvrage de Jérôme Cardan, c'est l'Ars Magna, qu'il publie en 1545, et dans lequel le titre de gloire, si l'on peut dire, est la résolution de l'équation du troisième degré, et au-delà même de l'équation du troisième degré, celle du quatrième degré. Alors, on sait que c'est un problème sur lequel les mathématiciens se cassaient les dents depuis plus d'un siècle. On avait pratiquement perdu l'espoir d'en trouver véritablement la solution. Et on sait en même temps que le travail que propose Cardan va donner lieu à toute une querelle en paternité, si l'on peut dire, entre Cardan, qui publie donc dans son Ars Magna la solution de l'équation du troisième degré, et un autre mathématicien du nom de Tartaglia, qui dit que, d'une certaine manière, Cardan, en fin de compte, lui a volé sa véritable découverte.
Il se trouve que, tout en étant diplômé en médecine à Padoue, donc dans le centre le plus prestigieux de l'enseignement de la médecine, il fut nommé professeur de mathématiques à Milan en 1534. Vous avez cité l'ouvrage principal, sans doute l'Ars Magna, mais en 1539, Cardan avait publié déjà un ouvrage d'algèbre, enfin qui s'occupait beaucoup d'algèbre, et qui s'appelle Practica Arithmetica. Alors cet ouvrage est, je crois, le résultat de son activité algébrique dans une école milanaise, l'école des Piatti, ou ce qu'on appelle aussi l'Accademia Platina. Et si nous voulons commencer par la polémique suscitée par l'Ars Magna, nous pouvons aussi, et en effet, c'est peut-être l'épisode le plus connu de la vie mathématique de Cardan, et cela commença par l'épisode de la révélation de la solution de l'équation irréductible du troisième degré faite par Tartaglia à Cardan, chez lui. Mais Tartaglia lui demanda de promettre absolument de ne pas publier cette solution, et en même temps, il lui révéla cette solution seulement par une devinette, parce qu'il s'agissait de 25 vers et dont la signification était cachée. Je ne sais pas si je peux essayer de citer quelques vers, dont le début est « Quando quel cubo che con le cose appresso si aguaglia a qualche numero discreto », c'est-à-dire, là, c'est même la définition de l'équation irréductible, c'est-à-dire x3 plus bx égale à c, pour nous. Et évidemment, à l'époque, on l'appelait plutôt quelque chose comme « lorsque le cube avec les choses auprès s'égale à quelque nombre discret, on trouve deux autres différents en lui ». Trovano due altre differenti in esso.
Quand le cube avec les choses est égalé à un certain nombre, trouves-en deux autres qui diffèrent de ce dernier. Ensuite, tu tiendras ceci pour habituel, que leur produit soit toujours égal au tiers du cube des choses exactement. Ensuite, son reste général, de leur racine cubique bien soustraite, vaudra ta chose principale.
Ayant interprété ce texte un peu complexe, Cardan réélabora dans un contexte systématique cette solution. Donc on peut dire qu'il ajouta sans doute des éléments à la théorie. Et en effet, il reconnaissa que l'origine de cette solution était Tartaglia.
Avant d'arriver à ce que expose Cardan dans l'Ars Magna, on voit bien qu'il y a eu une première approche de la résolution de l'équation du troisième degré avec Scipione del Ferro, qui propose en fait une résolution pour un cas,
de cette équation, qu'avant sa mort il transmet à Antonio Maria Fiore. Et puis de l'autre côté, on a effectivement Tartaglia qui propose des solutions pour en réalité 3 ou 4 cas.
Oui.
Pas beaucoup plus.
Oui.
Et puis il y a une sorte de dispute, de concours entre savants.
Oui.
En même temps, c'est intéressant de voir quelles sont les mœurs de l'époque où on organise ainsi des disputes et des concours entre mathématiciens pour savoir qui arrivera le mieux résoudre des équations du troisième degré dans lesquelles le Tartaglia, effectivement, ressort largement vainqueur. Ça se passe en 1541.
Oui.
En 1539, Tartaglia, comme vous l'avez dit, a donné sous forme d'énigme envers sa solution à Cardan. Cardan qui avait été alerté, si on peut dire, par cette espèce d'aventurier mathématicien en même temps, qui est Giovanni Colla.
Oui.
Mais alors, il semble tout de même que lorsque Cardan expose, c'est au chapitre 9, si je me rappelle bien, de l'Ars Magna, sa propre solution, par rapport à Tartaglia, il amène quand même quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire que, je dirais, il prend une solution, on ne va pas entrer dans les termes techniques, mais il prend une solution à partir de l'équation x3 plus px égale q, qui est la formule traditionnelle, et prend une solution dans laquelle il égale x à a moins b, et puis on en arrive à a au cube et b au cube, déterminés par leurs différences et leurs produits.
Oui.
C'est-à-dire que là, nous n'avons plus, je dirais, des solutions particulières à des équations particulières, mais d'une certaine façon, il introduit là dans un cadre algébrique réel, et qui fait comprendre la méthode.
Oui.
Et donc, il me semble que du point de vue qualitatif même, il y a une différence avec Tartaglia.
Oui, 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 tout à fait. Quand je dis qu'il insère le résultat de Tartaglia dans un contexte de théorie des équations, c'est ça que j'entends. Parce que, justement, la solution devient générale, au moins autant générale que la notation de l'époque le permet.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il offre une solution qui est, disons, mal adaptée au calcul numérique réel, parce qu'on veut résoudre les équations, mais que du point de vue, je dirais, de la définition de la solution, en fait, il l'a c'est définitivement mis en place avec son travail.
Oui.
Applique au cube le tiers du nombre de l'inconnu, auquel tu ajouteras le carré de la moitié du nombre de l'équation, et recueille de l'ensemble la racine, carré bien entendu, que tu extrairas et tu ajouteras à l'une la moitié du nombre que tu avais déjà élevé au carré, tu retrancheras à l'autre encore une moitié, et tu auras le binôme avec son apothome. En extrayant la racine cubique de l'apothome de la racine cubique de son binôme, le résultat de cette opération est la valeur cherchée.
Le malheur que Jérôme Cardan a pu connaître avec son premier fils Giovanni Battista, car on peut facilement imaginer comme pour un père il soit insupportable de voir son fils condamné à mort et exécuté, mais on peut dire que le second ne lui a pas apporté plus de joie et que d'une certaine façon, à travers justement le tumulte des relations entre Jérôme Cardan et son second fils, c'est quelque chose d'encore plus grave qui lui arrive dans la mesure où ça l'atteint dans sa propre vie et par rapport au travail qui a été celui de toute son existence, Étienne Wolff.
Son second fils était un mauvais garçon. Depuis l'âge de 13 ou 14 ans, il errait à travers l'Italie, il jouait, il volait. Et il exigeait de l'argent de son père. Cardan avait eu de très nombreuses altercations avec lui. Il semble même qu'au cours d'une altercation particulièrement violente, il lui ait coupé une oreille. Donc plusieurs fois, Cardan a dû intervenir auprès de la justice pour le faire emprisonner. Donc les relations, bref, entre le père et le fils étaient exécrables. Et un jour, ce fils cadet a profité d'une absence de Cardan pour cambrioler sa maison et en particulier prendre ses pierres précieuses auxquelles Cardan tenait particulièrement parce qu'il attribuait une valeur un peu magique à certaines d'entre elles. Alors là, Cardan a été absolument ulcéré et il a cherché à faire condamner son fils de la manière la plus sévère qui soit. Ça n'a que partiellement réussi. Le fils a été banni, enfin emprisonné et banni. Donc la difficulté supplémentaire, le fils a été ulcéré de la sévérité de son père et peut-être l'a dénoncé à l'Inquisition. Là, c'est pas absolument certain, puisqu'on a une petite note manuscrite qui est donc de ce fils et qui indique qu'il pourrait faire des ennuis ou des difficultés à son père. L'a-t-il fait réellement? On ne sait pas. Toujours est-il que Cardan a été arrêté, en tout cas par l'Inquisition. Alors ça, c'est un autre aspect un peu curieux de la vie de Cardan, cette arrestation par l'Inquisition, parce qu'on n'a pas grand-chose à reprocher à Cardan, en particulier à ce moment-là de son existence. On peut revenir sur des faits passés, donc l'horoscope du Christ, qui date déjà d'un certain nombre d'années. On peut évidemment accuser Cardan de pratiquer l'alchimie, la magie, l'astrologie divinatrice. On peut lui reprocher des petites choses. Il fait éditer ses livres chez les protestants, à Bâle ou à Nuremberg. Dans certains de ses livres, il y a des propos un peu curieux. Dans un livre où il compare les quatre religions principales, les quatre religions qui sont lui sont les principales, il ne donne pas clairement la préférence au christianisme.
Je suis né en des temps si troublés, j'ai été confronté à tant de tentations tout en étant accablé par la pauvreté, j'ai tellement, au cours de mes si nombreux voyages, été en contact avec des hommes indifférents et même hostiles à la religion, que la solidité inébranlable de ma foi doit être attribuée à un miracle plus qu'à ma sagesse, à un secours divin plus qu'à ma vertu. Assurément, dès ma petite enfance, j'avais adopté cette prière. Seigneur Dieu, dans ta bonté infinie, donne-moi une longue vie, la sagesse et la santé de l'esprit et du corps. Et je ne suis pas seulement respectueux de la majesté divine, mais aussi de la bienheureuse Vierge Marie et du bienheureux Martin, dont la protection, j'en ai été averti par un songe, m'assurera un jour une vie plus tranquille et éternelle. Mais je sais que je souffre déjà d'un grave déshonneur parce que j'ai voulu enseigner la sagesse aux mortels. J'y ai été entraîné par la pitié et par la souffrance des malheureux. C'est pour cette raison aussi que j'ai traité de l'immortalité de l'âme. Et je prétends en avoir parlé d'une façon simple et naturelle, en accord avec Platon, Aristote et Plotin, ainsi qu'avec la raison et l'enseignement de l'Église. Ce qui manque chez Platon, c'est le sérieux. Chez Aristote, l'ordre. Chez Plotin, la fin et les récompenses. Cette constatation n'est pas de moi, mais d'Avicenne, à l'opinion de qui je souscris volontiers, parce que c'est la plus vraisemblable parmi celles des philosophes.
Cardan ne cesse de dire que ses interprétations, et là je crois qu'il a apporté une distinction tout à fait fructueuse, et il l'a bien mise en valeur, ne sont pas certaines, mais elles sont vraies. Il y a toute une réflexion sur la différence entre certitude et vérité, ce qui est certum et ce qui est verum. Et il y a tout un paragraphe, d'ailleurs, d'interprétation des songes, qui je crois est assez lumineux pour nous, dans la mesure où c'est du domaine de la vérité que se situe l'interprétation des sons, ce n'est jamais du domaine de la certitude. Même dans le domaine mathématique, Cardan présente un certain nombre d'opérations faites sur des nombres comme quelque chose qui est du domaine de la vérité, mais qui n'est pas du domaine de la certitude. Resterait à savoir ce que Cardan place dans ce domaine de la certitude. Et ça nous conduirait également aussi à assez loin, peut-être, mais à une question importante qui a été source, je crois, de grandes difficultés pour Cardan pendant sa vie et source de l'interprétation difficile après la publication de ses œuvres. Est-ce que dans cette certitude, il faut placer le domaine des vérités religieuses? Est-ce que les vérités religieuses seraient ce domaine intouchable de la certitude auquel n'atteint pas cet exercice de la raison, ou les différentes raisons chez Cardan.
Et alors, le plus curieux, peut-être, c'est ce qui se passe ensuite. Cardan n'est pas torturé, il le dit sous une forme un peu autre. Il dit on se comporta correctement avec moi, ça veut dire on ne m'a pas torturé. Et il est condamné, mais en fait de manière très, très légère, puisque en fait il est relaxé, mais avec interdiction d'enseigner et de publier. Alors cela dit, il est possible que Cardan, qui avait d'importantes relations dans les milieux d'Église, ait fait intervenir, c'est même certain, plusieurs évêques cardinaux qui lui étaient favorables, voire peut-être le pape lui-même. Ce qui pourrait expliquer la légèreté de la condamnation.
Si on essaie de réfléchir, outre ce que vous avez signalé, lorsque par exemple, effectivement, il prend les quatre grandes religions, bon, mettons l'idolâtrie de côté, mais quand il prend l'islam, le judaïsme, le christianisme, en effet, on ne sait pas très bien laquelle est la plus importante, ce qui, dans la situation chrétienne de l'époque, est quand même un peu énorme, oui. Malgré tout. Mais surtout, j'essaie de prendre... Bon, je veux dire aussi, il écrit un éloge de Néron, ce qui quand même peut paraître particulièrement provoquant étant donné la manière à la suite des Suétones dont est présenté Néron à l'époque. Mais surtout, il y a quelque chose sur quoi je voudrais insister un petit peu plus, qui est quand même la conception de l'âme qu'a Cardan. D'une part, je dirais un peu sous l'influence de Pomponazzi, il a une notion très néo-aristotélicienne de l'âme, mais où surtout il a l'air, et il l'écrit quand même quasiment noir sur blanc, de ne pas croire à l'immortalité de l'âme. Or là, quand même, il touche quand même à quelque chose qui est de la dogmatique même de l'Église.
Oui, disons qu'il il doute, il n'écrit pas véritablement qu'il n'y croit pas, mais il se demande si ce dogme est bon ou préjudiciable à la société humaine. Il a effectivement tendance à penser que ça peut être préjudiciable, puisque ça peut amener les hommes à s'intéresser davantage à la vie future qu'à la vie présente. Et puis, il ajoute en corollaire que ceux qui n'y croient pas doivent se montrer plus vertueux que les autres, puisqu'ils sont détestés pour leurs idées, et qu'il faut qu'ils fassent la preuve dans cette vie même. Bon, ça, évidemment, est tout à fait contraire au dogme.
Dans la manière dont Cardan aborde justement cette étude des rêves, c'est que il y a une multiplicité à l'époque de mêmes études sur les rêves qui sont des sortes de clés des songes, reprenant le grand classique d'Artemidore, et nous restons toujours dans cet horizon, tandis que à travers Cardan, aussi bien à travers l'autobiographique, à travers les commentaires sur les songes, on voit que, je dirais, se met en place ce qu'on pourrait appeler, c'est forcé peut-être un tout petit peu la chose, mais ça s'en est bien à l'esprit, se met une grammaire des songes. C'est-à-dire justement une façon de les comprendre, non pas en disant tel symbole ça veut dire ceci d'une façon absolument mécanique, mais de se mettre dans le mouvement même du songe pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire.
Oui, exactement. Il y a d'innombrables clés des songes qui mettent entre deux colonnes, d'un côté ceci a été rêvé et cela voudra dire cela, etc. Il y en a beaucoup, car on trouve encore cela chez Cardan. Il faut bien avouer qu'ici ou là, dans le traité des songes, on trouve encore de telles comparaisons. Mais ce n'est pas l'important. Ce qui a la plus grande place et ce qui est le plus important chez Cardan, c'est que le songe est le résultat d'une élaboration. L'image qui est vue dans le songe n'est jamais ce que Cardan appelle une icône. Il fait une distinction tout à fait intéressante et il élabore de façon très approfondie cette distinction entre image et icône. Icône, c'est l'image qu'on voit dans le miroir ou qui correspond trait à trait. Un songe, ce n'est jamais cela. Un songe, ce n'est jamais une icône. S'il y avait icône et icône parfaite, il n'y aurait plus songe. Or, selon Cardan, et il y revient constamment, le songe, c'est un phénomène de la nature, naturel, naturalis. Cardan y insiste sur ce terme nature, naturel, pour montrer que le songe n'est pas un phénomène surnaturel. Il est dans la nature. Or, dans la nature, il n'y a que des images imparfaites. Il y a des images imparfaites qui sont des images qui ne sont pas des icônes. Or, ces icônes opèrent évidemment toujours sous la forme de la ressemblance du signe. Il y a un signe qui ressemble à un élément de la nature et qui renvoie à autre chose. En fait, il y a toujours un certain décalage dans l'exactitude. Il y a toujours ce que Cardan appelle une inexactitude, quelque chose qui empêche l'image d'être parfaite. Or, c'est ce quelque chose qui empêche l'image d'être parfaite sur quoi va travailler Cardan, sur quoi va s'accrocher l'interprétation de Cardan. Et à partir d'un élément d'un rêve, il va peu à peu faire subir toute une série d'opérations jusqu'à ce qu'il ait trouvé non pas la véritable interprétation du rêve, mais une interprétation. Je crois qu'il faut souligner que, contrairement aux clés des songes, qui donnent une coïncidence terme à terme entre le rêve et le signifié du rêve, Cardan montre qu'il n'y a jamais coïncidence terme à terme. L'important, c'est le rapport du rêve avec le rêveur, avec celui qui songe. Et d'une certaine façon, l'interprète du rêve ne peut jamais être quelqu'un d'autre que celui qui songe. Ou tout au moins, s'il y a un interprète du rêve, celui qu'il appelle, en reprenant le terme latin, le vates, c'est-à-dire le devin, s'il y a un interprète, cet interprète ne peut travailler qu'en collaboration avec le songeur, avec celui qui rêve. D'une certaine façon, Freud disait qu'il était le premier à faire de celui qui rêve l'interprète du rêve. D'une certaine façon, oui, mais Cardan, là aussi, a bien montré qu'on ne peut pas faire une interprétation de rêve sans la collaboration de celui qui a rêvé.
Est-ce qu'on peut penser qu'il y a, ne fût-ce qu'un principe d'unité entre la manière dont Cardan se saisit des rêves et essaie de les comprendre, et la manière dont, par exemple, il pratique l'astrologie? Je veux dire par là que lorsqu'il dresse des horoscopes, et même d'ailleurs lorsqu'il donne son propre horoscope à lui-même, on voit bien comment il décrit une certaine situation avec, je dirais, une certaine vibration de flou. Oui. Et donc ça a besoin là aussi d'être interprété. L'astrologie pour lui n'est pas quelque chose de purement déterministe, de purement mécanique, qui dit voilà, une fois qu'on a dressé la carte en carré à l'époque de l'horoscope, nous pouvons décrire la vie d'un homme. Non, ça a besoin d'être compris et interprété, d'où aussi un risque d'erreur.
Oui, je crois que ce qui pourrait peut-être faire le lien entre ces différents aspects de l'activité de Cardan, de la pensée de Cardan, qui pourrait d'ailleurs faire le lien également avec ses réflexions mathématiques et également avec ses réflexions grammaticales. C'est une notion qui, je crois, est tout à fait centrale chez lui, c'est celle de ratio. Ratio, le mot latin, que nous traduisons par raison, qui en réalité a encore à l'époque son sens latin qui veut dire le calcul. Nous disons encore la raison de telle chose aujourd'hui au sens de calcul. Or, Cardan ne cesse de parler pour l'interprétation des songes d'une ratio interpretandi. Et le mot ratio, il l'emploie aussi dans les écrits astrologiques. Il l'emploie aussi dans les écrits grammaticaux. Par exemple, un homonyme, un synonyme, un paronyme, ce sont les différentes rationnesses et différentes raisons d'un nom. Également, dans les écrits mathématiques, il montre assez bien comment les raisons d'un nombre sont une série de dérivations, de travaux faits à partir d'un nombre donné. Or, l'interprétation, pour lui, c'est une raison. Une raison, c'est-à-dire, non pas ce que nous appellerions aujourd'hui au sens rationaliste du terme « la raison », mais c'est quelque chose qui consiste, il le dit très clairement d'ailleurs, au début d'un texte tout à fait important qu'il intitule « Mnemosynon », il dit que la raison, c'est ce qui permet d'introduire un ordre, ce qu'il appelle « l'ordo », un ordre. Or, je crois que ce travail d'interprétation, comme le travail qui consiste à tirer les horoscopes, c'est chercher un ordre. Essayer d'opérer un certain nombre d'opérations qui sont en réalité des calculs qui ne sont pas aléatoires d'ailleurs, ce n'est pas du pur hasard. La ratio, c'est un calcul qui n'est pas livré au hasard, mais qui n'est pas non plus je le disais, la rationalité scientifique d'aujourd'hui, bien entendu. Et cette mise en ordre, cette organisation suivant un ordre, permet d'introduire dans les songes quelque chose qui est d'un autre ordre, bien sûr, que la rationalité scientifique, mais qui n'est pas non plus de l'ordre du pur hasard, de la fantaisie, de la pure imagination.
Lorsqu'on lit l'autobiographie de Cardan, on a l'impression que, à côté de ce commentaire sur les songes, de cette interprétation des songes, il lui arrive tout un tas d'événements que l'on pourrait ranger, alors là, sous le terme de synchronicité, tel qu'il a été fondé par Jung, c'est-à-dire d'événements signifiants, arrivant au hasard, ou de clairvoyance, ou de prémonition. Enfin bref, quand même, tout un ensemble de choses que, je dirais, généralement, on range plutôt même sous le terme de miracle.
Tout à fait. D'ailleurs, il parle des événements miraculeux, des miracles surnaturels, presque surnaturels, naturels. Il a toute une classification d'événements. Mais ce qui est frappant chez lui, c'est que c'est d'abord son discours, au niveau du langage. C'est un langage qu'on peut considérer presque comme un langage d'un scientifique du XXe siècle. C'est-à-dire quelque chose de logique, de très rationnel, extrêmement rationnel, qu'il essaie d'appliquer à des événements qu'il ne comprend pas.
Quand je le veux, je vois ce qu'il me plaît de voir, et cela non avec l'esprit seulement, mais avec les yeux, comme ces images que je voyais dans mon enfance. Mais maintenant, je crois qu'elles sont le résultat de mes occupations. Je n'ai pas toujours, il est vrai, ni en tout temps cette faculté, mais cependant, je ne l'ai que quand je veux. Les images que je vois sont toujours en mouvement. C'est ainsi que je vois les forêts, les animaux, les divers pays et tout ce que je veux voir. Je crois que la cause de tous ces effets est dans l'activité de mon imagination et dans une vue très perçante. Dès mon enfance, j'avais cela de commun avec Tibère César, que je pouvais voir dans l'obscurité la plus profonde comme en plein jour. Mais je n'ai pas gardé longtemps cette faculté. Je vois bien encore toujours quelque chose, quoique je ne puisse pas bien distinguer ce que je vois. Et j'attribue aussi cet effet à la chaleur du cerveau, à la subtilité des esprits vitaux, à la substance de l'œil et à l'énergie de l'imagination. De variet atererum.
Vous parliez tout à l'heure du statut de l'image chez Cardan, en montrant la différence de l'image par rapport à l'icône en tant que ressemblance parfaite. Et il y a en même temps ce passage très mystérieux de son traité De varietate rerum, de la variété des choses, dans lequel il parle des images qu'il arrive à se former lui-même. Des images qui lui viennent, alors là, d'une sphère qu'on pourrait appeler une sphère spirituelle, et qui sont à la limite les meilleures images possibles, et qu'il peut... le passage n'est pas tout à fait clair, mais dont on croit comprendre qu'il peut pratiquement les convoquer à sa propre volonté.
Effectivement, l'image du rêve, je crois, est différente de la vision. Cardan ne cesse de le dire, ne cesse de souligner que dans le rêve, il ne s'agit pas d'une vision au sens religieux du terme. Il ne s'agit pas d'une vision, bien que l'on puisse avoir dans le rêve un certain nombre d'images qui ressemblent à la vision. Ce que Cardan montre, c'est qu'il y a une sorte de dégradé, une sorte de progression qui va d'une image parfaite à l'image la plus imparfaite. De progression qui n'est pas simplement une dégradation. En particulier, l'image imparfaite du songe n'est pas la dégradation d'une image parfaite qui serait l'image de la vision. Dans le songe, il y a quelque chose de plus qui est l'élaboration. Quelque chose de plus dans la mesure où l'image qui apparaît dans le songe n'est pas simplement reçue de l'extérieur. N'est pas reçue, mais elle est également créée par celui qui songe. Celui qui songe crée sa propre image, il ne se contente pas de recevoir une image qui lui vient de l'extérieur. Or, c'est dans cette création et également dans les ratés de cette création que Cardan glisse ses interprétations. Ce qui est intéressant, je crois, c'est dans la mesure où il n'y a pas icône, il y a nécessairement, écrit Cardan, des ratés. Or, c'est là que un interprète qui sera assez habile pourra saisir, pour ainsi dire, pourra piéger la signification.
Décrit les événements, décrit qui sont assez étonnants, ces événements de synchronicité. C'est vraiment son livre, par exemple, autobiographique, est rempli d'événements de synchronicité. Il a le regard de l'homme de science, c'est-à-dire, il dit non. Si c'est naturel, je veux éliminer cet événement. Si c'est naturel, je veux l'éliminer. Je cherche tous les facteurs objectifs. Et si ça reste quelque chose que je ne peux pas expliquer, alors là, je me pose des questions. Et c'est très touchant, c'est très émouvant, je dirais, parce que ces démarches scientifiques de type pur, a mis quand même quelques siècles. Eh bien, chez lui, même ces événements étranges, étonnants, des synchronicités, des prémonitions, n'est-ce pas? Et personne, je crois, ne peut douter de l'authenticité de ces événements. Je ne crois pas qu'ils sont vraiment inventés. Mais si on les prend à la lettre, vraiment, il s'agit des descriptions dans un langage scientifique des phénomènes de synchronicité. Et je dirais que ce n'est pas étonnant. Les deux choses vont ensemble. Parce que je crois qu'un homme, un être humain, qui est ouvert à une information qu'on peut appeler l'information de l'imaginaire, capable de l'ouvrir vers des grands champs scientifiques, vers des grandes découvertes scientifiques, est à la fois sensible à ce genre d'événements. Parce que, après tout, les retournements qui s'opèrent, et là aussi Cardan peut être un pionnier, c'est que l'instrument de mesure n'est pas un instrument extérieur, comme nous le faisons avec les accélérateurs, mais l'homme lui-même, c'est-à-dire la personne de Cardan lui-même. Il se prend en tant qu'objet d'étude. Sa vie, c'est une sorte de description de Cardan, par Cardan lui-même, en tant qu'objet d'étude, et les phénomènes de prémonition, de synchronicité, il les prend en tant que phénomène, je dirais, sans avoir peur du mot, scientifique.
J'avais l'habitude, ce dont beaucoup de gens s'étonnaient, de rechercher la douleur si je ne l'éprouvais pas, comme j'ai dit pour la goutte. C'est pourquoi j'allais fréquemment au-devant des causes de maladie, en évitant autant que possible les seules insomnies, parce que j'estimais que le plaisir n'est que l'apaisement d'une douleur précédente. Si donc la douleur est volontaire, il est facile de la calmer. D'autre part, je sais par expérience qu'il m'est impossible de ne pas souffrir du tout. Quand cela arrive, il s'élève en mon âme une sorte d'élancement si pénible qu'il n'est rien de comparable. Une douleur ou une cause de douleur qui n'ont rien de honteux ni de dangereux me font beaucoup moins de mal. Aussi ai-je imaginé pour cela de me mordre les lèvres, de me tordre les doigts, de me pincer la peau, de me presser le muscle grêle du bras gauche jusqu'aux larmes. Par ce secours, j'ai vécu jusqu'à ce jour sans compromettre ma dignité.
Ses vices sont toujours de grands vices, et ses vertus sont de grandes vertus.
Mais en même temps, il est tout le temps en train de montrer, comme je dirais, il se conduit, ou il s'est conduit d'une façon très excentrique dans la vie. Allant d'une humeur à l'autre, un jour se vêtant de haillons, le lendemain, au contraire, montant une grande richesse de l'habillement, etc. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est reçu, je dirais, comme un peu provocateur à l'époque, disons, ne correspondant pas en convenance. Et pourtant, on peut se demander si ce n'est pas la première vraie autobiographie qu'on rencontre, dans la mesure où ça heurtait peut-être les convenances admises en littérature, mais en fin de compte, il ne faisait que dépeindre, je crois, en grande partie, les hommes tels qu'ils étaient au XVIe siècle.
Oui, absolument. Donc, quand son autobiographie a paru, c'est-à-dire en 1643, donc bien après sa mort, elle a beaucoup choqué. Et puis finalement, les réactions étaient un petit peu doubles. Donc ceux qui étaient choqués parce qu'ils disaient des choses qu'on n'était pas censé dire, et d'autres qui disaient que finalement ce sont des défauts assez fréquents, mais que précisément on ne dit pas. D'autre part, ce qui a peut-être choqué, c'est cette exagération dans le sens à la fois du bien comme dans celui du mal. Et d'autre part, oui, l'insistance sur des choses tout de même extrêmement intimes. Donc il explique qu'il est impuissant, qu'il est allé voir les courtisanes les plus raffinées, que ça n'a rien fait. Beaucoup de choses très personnelles qui sont dites. Et c'est dans cette mesure où il y a une véritable exposé de la vie intime et aussi une véritable introspection, parce que Cardan cherche à expliquer les mobiles de ses actions et de son comportement. Qu'on peut considérer, enfin que je considère moi, que c'est la première autobiographie au sens en Occident, au sens où on l'entend traditionnellement, puisque les œuvres qu'on a avant, dans l'Antiquité par exemple, sont en général des œuvres de justification de comportement politique. Par exemple, Flavius Joseph qui écrit son autobiographie parce qu'il doit justifier une trahison. Il est passé du camp des Juifs au camp des Romains. Ou bien alors l'autre type d'autobiographie qu'on peut avoir avant Cardan, c'est l'autobiographie de type chrétienne, dont le premier exemple est donné par saint Augustin, où il s'agit de montrer le chemin d'une âme vers Dieu. Mais ce type d'autobiographie vise à encourager le lecteur à la conversion et non pas à exposer tous les aspects de la personnalité. Donc dans cette mesure, on peut dire que Cardan est tout à fait novateur. Et intéressant de noter que, par exemple, Rousseau, quand il écrit les Confessions, se réfère à Cardan dans un texte qui n'a pas été gardé dans la version définitive des Confessions, mais qui se trouve dans un passage, donc un avant-texte, disons, qui a été rejeté, qui s'appelle le préambule de Neuchâtel, où il donne comme précédent à son entreprise les Essais de Montaigne et Cardan. Et alors pour Cardan, il dit seulement un homme moins vain, mais plus sincère que Montaigne et Cardan. Malheureusement, ce même Cardan est si fou qu'on ne saurait rien tirer de ses rêveries. Alors, est-ce que Rousseau n'a rien tiré des rêveries de Cardan ? C'est tout un problème. Il y a certains passages qui, moi, me font penser que peut-être Rousseau avait lu un petit peu plus Cardan qu'il ne le dit. Et d'autre part, on ne peut pas être frappé par la certaine ressemblance assez précise entre la personnalité de Cardan et la sienne. Alors, je ne veux pas dire que Rousseau ait fondé sa personnalité sur celle de Cardan, mais disons qu'il pouvait trouver chez Cardan un homme qui avait ressenti certaines choses absolument comme lui. Et par exemple, le goût de la solitude, l'originalité vestimentaire, une volonté affichée de sincérité. Et le sentiment de persécution sont des traits qu'ils ont en commun.
Ce qui semble assez curieux, c'est la manière dont Cardan a été reçu. Dans cet aspect qui nous semble un peu mystérieux aujourd'hui de ces travaux. Parce que on voit bien comment, je dirais, à partir du 19e siècle, chez quelqu'un comme Balzac, chez quelqu'un comme Nerval, chez quelqu'un comme Schopenhauer, la référence à Cardan va apparaître de manière forte, chez Freud aussi, et même encore au 20e siècle, on voit Bachelard effectivement renvoyé à tout un certain nombre de travaux de Cardan. Alors que, beaucoup plus proche de lui, c'est-à-dire au 17e siècle, Et en plus, avec la publication de l'autobiographie, il va y avoir comme une sorte de mouvement de rejet. J'ai simplement relevé ce qu'a dit un père jésuite au XVIIe siècle, le père Garras, qui, parlant de Cardan, dit « Il avait le timbre de la cervelle aussi fêlé comme la conscience tarée. » Alors, on a l'impression que finalement, de son temps, il y a quelque chose à côté de quoi on est passé.
Exactement. Je crois que de son temps, au XVIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, la véritable mesure de Cardan n'a pas été prise. Cela pour différentes raisons. D'abord, peut-être la difficulté simplement de trouver ses œuvres. Ses œuvres ont été publiées à Lyon en 10 gros volumes en 1663, mais avant, trouver les œuvres de Cardan était quelque chose de très difficile, des œuvres dispersées, déjà anciennes. D'autre part, difficulté de lire ses œuvres, qui sont écrites en latin, mais non pas dans un latin classique, dans un latin très difficile. Il faut donc déjà franchir tout un barrage. Et je crois que ici, c'est plus la figure de Cardan qui s'est imposée à ses contemporains et à ceux qui venaient après, la figure d'un excentrique, celui que Garras estimait avoir la cervelle un peu fêlée, beaucoup plus que ses œuvres. De Cardan, on a gardé une image, une sorte de caricature d'un homme étrange, d'un homme qui avait un démon comme Socrate, mais il n'y a pas eu, je crois, de véritable lecture approfondie des œuvres de Cardan.
On a l'impression qu'il y a chez Cardan, sinon la réalité, mais disons la tendance à ce que, dans notre langage à nous, on appellerait un délire interprétatif. Dans la mesure où, effectivement, il se sent tout le temps persécuté et il cherche des raisons qui sont parfois pas très vraisemblables.
Le sentiment de persécution est très net chez Cardan. Alors, il se fonde chez Cardan sur une très réelle accumulation de malheurs. Mais disons que ça aboutit à déformer la réalité, c'est-à-dire à l'interpréter d'une manière qui est erronée. Il y a un moment où Cardan est invité à un dîner par des professeurs, il est persuadé qu'on veut l'assassiner. Il explique qu'à la suite d'un prodige qui arrivait la veille, il a fait vœu de ne pas sortir. Et il note qu'à ce moment-là, les deux professeurs en face de lui échangent un regard inquiet. Alors, la réaction des professeurs, c'est de se dire « Mais ce pauvre Cardan, il est complètement fou. » Et Cardan l'interprète comme « Ah, ils sont déçus dans leur tentative de m'assassiner. »
Ce qui est assez étonnant, c'est que par rapport à ce qu'a apporté Cardan, à la fois comme ingénieur, comme mathématicien, etc., on voit en fin de compte, je dirais, l'école de psychiatrie objective de la fin du XIXe siècle, et particulièrement son compatriote dans le temps, Lombroso, qui, lorsqu'il parle des hommes de génie, n'hésite pas à dire que Cardan, en fin de compte, il était en fait du gibier d'asile pour lui.
Tout à fait, c'était un fou, voilà. Pour Lombroso, qui était un adepte du positivisme, Cardan, c'est un fou, tout simplement. Mais il était en bonne compagnie. Il était en compagnie des gens comme Schopenhauer, comme Gogol, comme Swift, comme Ampère, comme Gérard de Nerval, comme Baudelaire, comme Bolyai, les grands mathématiciens, Rousseau et même les grands Newton. Donc il était en bonne compagnie. Mais quelle était l'origine de la folie pour Lombroso? À vrai dire, les crimes dont il était coupable, Cardan, c'était justement de considérer que ce qui est imaginaire est réel. Que l'imaginaire est une source de la réalité. Et cela, c'est quelque chose d'inacceptable pour un esprit positiviste. Pas seulement un esprit positiviste, mais qui est considéré, Lombroso est considéré comme un des fondateurs, un des pères fondateurs de la criminologie moderne. Et voilà comme l'imaginaire arrive, en quelque sorte, au tribunal, n'est-ce pas, d'être considéré, l'imaginaire être considéré comme une sorte de crime. Crime, pourquoi? Parce que c'est une divagation, parce que c'est une insanité, parce que toutes ces divagations sur l'imaginaire, n'est-ce pas, sans citer, et ça c'est très important, sans citer les découvertes majeures de Cardan. Lombroso ne cite pas les grandes découvertes. Il parle de quelques songes pour tirer quelques conclusions, n'est-ce pas, sur la pathologie de Cardan, sur le fait qu'il croyait vraiment de voir des fantômes, qu'il voir des choses léviter, ou des choses comme cela, mais il cite pas un seul instant les grandes découvertes, et surtout l'imaginaire, qui est la preuve de sa folie, folie entre guillemets, selon Lombroso. Donc, je crois que ce qui est en jeu, et ce qui est en jeu encore de nos jours, c'est mettre en question d'autres niveaux de réalité. Au fond, c'est là le problème. Parce que quelle est la source de l'imaginaire? Nous ne le savons pas, quelle est la source de l'imaginaire. On ne peut pas mettre les doigts en disant, voilà, c'est cela, comme c'est une chaise, comme c'est une table, n'est-ce pas? C'est de notre ordre. Mais cet ordre est là, c'est ça se manifeste dans notre monde à nous, comme le monde quantique se manifeste aussi dans le monde macrophysique, comme les grandes découvertes se manifestent après, des années après, par des découvertes dans le monde réel, soi-disant réel, je dis soi-disant parce que je crois que à partir de Cardan, et surtout à notre époque, on doit donner une dimension beaucoup plus large à la réalité, qui est celle d'inclure justement à la fois l'imaginaire et le réel. Donc il n'y a pas de crime, le seul crime, c'est le crime de la simplicité et même du simplisme, n'est-ce pas, des types de celui de Lombroso, du positivisme, de tout ce qui nie l'existence d'autres niveaux de réalité.
Jérôme Cardan, par Michel Cazenave. Avec Étienne Wolff, Bassarab Nicolescu, Giovanna Cifoletti, Jacques Lebrun. Texte lu par Jacques Cerisier. Prise de son et mixage, Gilles Pézra. Réalisation, Isabelle Huel.